Toyota. Je te dépose pas juste devant le lycée, j'imagine.
Si.
C'est-à-dire... 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
En cette fin d'hiver 1847, les États-Unis vont réaliser le premier débarquement amphibie de leur histoire. Ils ont confié 13 000 hommes au général Scott. 1847, vous voyez que c'est encore un tout jeune pays, les États-Unis. Il est 3 heures du matin, le 9 mars 47. On est à Veracruz, sur la côte du golfe du Mexique. Et voilà que les 13 hommes en question débarquent en pleine nuit. La ville est bien défendue. Veracruz possède des défenses efficaces et Scott va mener il n'a pas le choix, il va mener un siège. Il va bombarder la ville à la fois depuis les terres, mais aussi depuis la mer. Pendant 20 jours, Veracruz est ainsi sous le feu croisé des canons des États-Unis. 6500 obus vont fondre de toutes parts sur cette cité, sur ses habitants. Et le 29 mars, le commandant mexicain est bien contraint d'agiter le drapeau blanc. Les Américains peuvent à présent, on dit les Américains, c'est d'ailleurs un abus de langage incroyable, hein, que les habitants des États-Unis, à eux tout seuls, puissent bénéficier de ce terme qui normalement devrait désigner ceux des deux sous-continents nord et sud-américains. Bref, je ferme cette parenthèse. Les voilà donc, les soldats des États-Unis qui progressent dans ce pays. Ils n'ont plus la crainte de se faire attaquer par derrière, puisque le reste de l'armée mexicaine s'est rassemblé et attend cette armée du général Scott. Ils ont choisi de tendre un piège aux envahisseurs, les Mexicains. Ils sont le long d'un canyon, un peu un côté Thermopyle, un canyon dans lequel ils seraient obligés de pénétrer les Américains s'ils ont l'intention de prendre la direction de la capitale de Mexico. Les éclaireurs envoyés par Scott décèlent le piège, avertissent suffisamment à l'avance leur général pour qu'il modifie son itinéraire. Et la bataille décisive va avoir lieu bien plus tard, hein, le 20 août 1847. On est tout près, on est aux portes de Mexico, à 10 kilomètres. La bataille en question, la bataille du 20 août, elle va opposer 20 000 Mexicains à 10 000 Américains. À la fin de la journée, les troupes mexicaines sont défaites. Elles laissent le champ libre aux troupes des États-Unis qui peuvent entrer dans Mexico. Et la question se pose, qui se rappelle aujourd'hui cette opération incroyable ?
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors pour la comprendre, cette opération, il faut revenir un instant aux origines des États-Unis d'Amérique, à ce traité de Paris de 1783, traité qui a été signé sous l'égide du roi Louis XVI et par lequel la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des 13 colonies d'Amérique. À l'époque, évidemment, le tout jeune pays est loin d'imaginer encore l'immensité du territoire qui se présente à l'ouest. Le reste du continent est occupé par les Espagnols et les territoires les plus proches sont ceux des Amérindiens, bien entendu. Or, très vite, les jeunes États-Unis vont manifester le souhait de s'agrandir. Et peu à peu, ils vont développer des méthodes pour s'étendre vers l'ouest. Les explorations se multiplient. La plus connue, je vous en parlerai dans quelques jours, c'est l'expédition Lewis et Clark de 1804 à 1806. Première expédition terrestre américaine qui traverse le continent donc d'est en ouest. Et à Washington et dans les colonies, dans les anciennes colonies de l'est, on prend conscience de l'immensité d'un territoire qui peut devenir un atout extraordinaire, avec des richesses inouïes qu'on peut développer. Il faut également empêcher d'autres pays de venir convoiter ces terres. En décembre 1823, ça c'est la date majeure, décembre 1823, le président Monroe, James Monroe, va prononcer son fameux discours. Ça va être ce qu'on appelle la doctrine Monroe, avec trois idées. D'une part, premièrement, l'Amérique du Nord et du Sud ne sont plus ouvertes à la colonisation. On dit ça parce qu'à l'époque, l'Europe est en train de coloniser l'ensemble de la planète, hein, donc on fait comprendre aux Européens qu'ils ne sont plus les bienvenus. Deuxièmement, toute intervention européenne sera donc perçue comme menace pour la paix. Et troisièmement, les États-Unis s'engagent en retour à ne pas intervenir de leur côté dans les affaires européennes, ce qui en 1823 d'ailleurs n'inquiétait pas beaucoup l'Europe pour tout vous dire. Autrement formulé, la doctrine Monroe, c'est chacun chez soi. Dans un ouvrage qu'il publie aux éditions du Cerf qui s'appelle « Sale guerre, l'invasion du Mexique par les États-Unis », voici ce que nous dit Éric Taladoire. Cette doctrine, la doctrine Monroe, vise officiellement à préserver le double continent américain des nouvelles interventions colonisatrices européennes. Les deux Amériques, donc l'Amérique latine aussi, seraient protégées par les États-Unis qui proclament en même temps leur isolationnisme. Les États-Unis s'instaurent ainsi unilatéralement comme le protecteur naturel de tout le continent qui n'a rien demandé. J'aime bien cette précision, le continent n'avait rien demandé. À ajouter un facteur à tout ça, ça va être l'immigration massive qui va provoquer cette augmentation considérable de la population nord-américaine. 13 millions d'habitants en 1830, une augmentation de près de 40% tous les 10 ans, avec des terres occupées par les Amérindiens à l'est du Mississippi et qui deviennent de plus en plus nécessaires pour le développement de la jeune nation. Des terres très convoitées. En 1830, c'est le président Andrew Jackson qui va proclamer le Indian Removal Act. Terrible. Alors ça, c'est vraiment... aujourd'hui, on peut dire que c'est le poids, c'est la croix des Américains de notre époque. Cette idée de cet Indian Removal Act qui veut dire qu'on va déporter les Amérindiens dans des territoires plus à l'ouest. Officiellement, le président déclare que cela libérera les Indiens du pouvoir des États et leur donnera la possibilité de chercher le bonheur selon leurs vœux et leurs rudes institutions. En vérité, c'est le début de véritables massacres. Aujourd'hui, on appelle ça la piste des larmes, the Trail of Tears. On parlera de 100 000 morts, un comportement qui va évidemment annoncer la suite de notre histoire. Yo-Yo Ma, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Kurt Mazur, interprétait ce final du concerto pour violoncelle de Victor Herbert.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors ce qu'il faut vous dire, c'est que le Mexique, de son côté, est sorti victorieux de 10 années de guerre contre les Espagnols et qu'il a obtenu, ce Mexique, l'indépendance en 1821. Ce qui veut dire que l'ensemble des possessions espagnoles d'Amérique centrale est passé à ce moment-là sous la souveraineté de l'État mexicain. Quand je dis l'ensemble, c'est une surface considérable. Près d'un quart du territoire actuel des États-Unis se retrouve d'un seul coup mexicain. C'est toute la région du Sud-Ouest. Le Texas, la Californie, le Colorado et d'autres États même sont sous la souveraineté de Mexico. Sauf que depuis sa toute nouvelle indépendance, le nouvel État mexicain a du mal, disons-le, à imposer son autorité sur l'ensemble de territoires dont certains se trouvent quand même bien éloignés, bien septentrionaux. Le Mexique est traversé par toutes sortes de courants qui s'opposent sur l'organisation territoriale, mais aussi d'ailleurs sur le système économique qu'il convient d'adopter. C'est un peu la pagaille à Mexico. Et les États-Unis, évidemment, vont essayer d'en profiter. Notamment, ils ont bien l'intention d'aller s'installer au Texas. Et à plusieurs reprises, Washington va proposer à Mexico d'acheter cette région du Texas. Sauf que les Mexicains ne veulent rien savoir et qu'à chaque fois, ils refusent. En 1834, le Mexique interdit l'esclavage. Ça ne va pas arranger ses relations avec les États-Unis. Dans le système économique, en tout cas dans toute la partie sud des États-Unis, il repose essentiellement sur l'esclavage. L'année suivante, le Texas se rebelle, exige que l'esclavage soit maintenu. Et en réalité, les États-Unis vont transférer une énorme somme d'argent et beaucoup d'armes pour équiper les rebelles qui sont en train de se soulever contre le pouvoir mexicain. Le chef de l'État mexicain va même se placer à la tête de l'armée qui s'en va combattre les Texans. Mais après la victoire de Fort Alamo en 1836, il est capturé, forcé de reconnaître l'indépendance du Texas. Ce sera la condition de sa libération. Et dès qu'il recouvre la liberté, il déclare s'opposer à l'indépendance de cet État. Seulement, ça y est, le mal est fait. Et maintenant, ce nouvel État du Texas, qui est indépendant, va demander l'annexion par les États-Unis. Et ceux-ci déclarent vouloir attendre quelque temps avant d'entamer cette démarche. Bah oui, ce serait un peu gros, évidemment, ça passerait pour une annexion pure et dure. Donc, on est assez malin à Washington. 9 ans plus tard, en mars 1845, il n'empêche, le Texas intègre bel et bien la République des États-Unis. Le Mexique n'avait pas reconnu l'indépendance du Texas et donc il considère que, pour l'instant, le Texas continue à faire partie de son territoire. Ce qui va bien sûr rompre toute forme de relation diplomatique avec les États-Unis. Vous avez remarqué la date, on est déjà là en 1845. On ne voit pas bien maintenant ce qui pourrait mettre un terme à la conquête des États-Unis vers l'Ouest et vers les territoires mal occupés, si je puis dire, par des Mexicains qui peinent de plus en plus à tenir tête à ceux qui, venant de l'Est des États-Unis, sont en train de conquérir ces terres. Alors après cette annexion du Texas en 45, les États-Unis vont mettre le paquet. L'expression est peut-être pas très élégante. En tout cas, ils vont y aller fort. L'idée d'un droit quasi divin du peuple américain à posséder les terres à l'Ouest prend ce nom de destinée manifeste. Et quelle que soit la présence non seulement des Mexicains, mais aussi bien sûr des Amérindiens ou d'autres nations d'ailleurs. C'est aussi le souhait de posséder une large façade sur l'océan Pacifique, bien entendu. Et pour cela, évidemment, il va falloir venir à bout des possessions mexicaines. C'est le chemin, la ruée vers l'Ouest, c'est le frontier. Ça se fait également au nom d'un certain racisme à l'égard des Mexicains, il faut bien le dire, puisque cette citoyenneté américaine est rattachée à la couleur de la peau à l'époque. Le métissage du peuple mexicain qui est composé d'anciens Européens, de nombreux Amérindiens, de beaucoup d'esclaves, ça fait que de nombreux politiques américains considèrent ces gens-là comme des gens pas très fréquentables. Le secrétaire d'État James Buchanan, qui sera plus tard le 15e président des États-Unis, évoque dans un discours public la race mexicaine imbécile et paresseuse. Vous voyez un peu, on est très très loin du politiquement correct actuel. Les Américains ne souhaitent pas pour autant être les premiers à déclarer la guerre et donc ils vont pousser les Mexicains dans leur retranchement, bien entendu. Voici ce qu'on peut lire dans Les États-Unis et le monde au 19e siècle d'Aissatou Siwoniu. Le président des États-Unis, James Polk, prit des mesures pour faire pression sur le Mexique dès que le Texas eut accepté officiellement l'annexion en l'été 45. Dès le mois de juillet, il dépêcha le général Zachary Taylor et 3900 hommes au Texas. Leur mission était de défendre le territoire nouvellement acquis contre une invasion du Mexique. Le choix d'envoyer le général Taylor était de mauvais augure, car tout le monde savait qu'il était de ceux qui n'hésitaient pas à outrepasser les ordres. Oui, on est sur le terrain à l'époque, les ordres n'arrivent pas si facilement. Lorsque Taylor et ses hommes vont arriver sur la rive nord du Rio Grande, ils construisent en quelques jours un fort qu'ils nomment Fort Texas et qui va narguer les troupes mexicaines qui sont juste là sur l'autre rive. Le Mexique, n'ayant pas reconnu l'indépendance du Texas, je vous le rappelle, ne reconnaît pas non plus évidemment la souveraineté américaine. Et au mois de mai 46, les troupes mexicaines vont prendre le fort d'assaut. Et bien voilà, c'est ce qu'attendaient les États-Unis. C'est le fameux casus belli. Le président Polk déclare, je cite, que le sang américain a coulé sur le sol américain. Aussitôt, les États-Unis envoient des troupes dans plusieurs territoires mexicains. Et à ce moment-là, ça va devenir assez difficile, bien sûr, de défendre l'idée d'une simple réaction à l'invasion mexicaine. C'est cette campagne dont je vous parlais pour commencer cette émission. À la fin de l'hiver 47, l'arrivée des 13 000 hommes du général Scott. Je cite Éric Taladoire. Après, donc on est là, après la prise de Mexico, les soldats retombent vite dans une dangereuse inaction. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'armée d'occupation recommence à boire, à se quereller, les hommes pillent, fréquentent les lieux de mauvaise vie, violent les femmes et tuent au hasard. Pire encore, les sacrilèges délibérés se multiplient dans les églises. Les Mexicains se vengent, attaquent les isolés, les ivrognes, et il y en a beaucoup. Durant les deux premiers mois d'occupation, pas moins de 200 soldats américains en auraient été victimes. Pendant la progression américaine dans les territoires mexicains, plusieurs centaines de soldats ont par ailleurs déserté pour aller rejoindre des troupes mexicaines. Il faut savoir que ils étaient tous de confession catholique, ces soldats américains. Il y en avait beaucoup qui venaient d'Irlande ou de France. Ils avaient du mal à supporter les exactions commises par cette armée protestante américaine envers les Mexicains catholiques. Et en rejoignant les troupes adverses, ils vont d'ailleurs former un bataillon à part entière qu'on va appeler, à cause des Irlandais, le bataillon Saint-Patrick. Depuis plusieurs mois, des troupes américaines attendaient le long de la frontière californienne. L'invasion du territoire est planifiée et cartographiée depuis des mois. Et c'est un incident diplomatique qui a tout lancé. Je cite de nouveau cet ouvrage de Siwoniu. En 1842, un malentendu donna lieu à un épisode ubuesque et prémonitoire. Persuadé que les États-Unis étaient en guerre contre le Mexique, le Commodore Catesby Jones avait pris la ville de Monterey, capitale de la Californie, et annexé la province mexicaine au nom des États-Unis sans résistance. Lorsqu'il eut confirmation que son pays n'était pas en guerre, il avait retiré ses troupes, s'était excusé, avait restitué le port aux fonctionnaires mexicains. Eh bien, 4 années plus tard, donc en 46, cette fois, c'est la guerre, la vraie, la guerre officielle. Une opération assez terrible. Les troupes américaines, qui sont bien plus nombreuses, bien mieux équipées que les troupes mexicaines, s'enfoncent littéralement dans le territoire californien. San Francisco, Los Angeles, San Diego. Les Américains pénètrent partout, également du côté par la mer d'ailleurs. Le Mexique n'a aucune marine à opposer à tout ça. Et en quelques semaines, le drapeau américain va flotter sur tous les bâtiments de la Californie. Et les troupes mexicaines ne font que reculer. Les soldats se sont arrêtés, ils sont faits prisonniers, souvent ils sont maltraités. Tout ce que je vous raconte là nous rappelle évidemment le décor, si je puis dire, de la grande fiction Zorro. Bien entendu, on est dans cette ambiance-là. Dans le même temps, le gouvernement américain envoie une deuxième armée envahir le Mexique par le nord-est. Et là, la résistance des Mexicains est bien plus forte. Une véritable guérilla oppose l'armée américaine à la population mexicaine. Et en retour, les envahisseurs s'adonnent à toutes sortes d'exactions. Pour eux. Le but, c'est d'impressionner les habitants, d'éviter qu'ils ne se révoltent. C'est une surenchère dans la violence qui n'annonce rien de bon. Gustavo Dudamel dirigeait l'orchestre de jeunes Simon Bolivar du Venezuela dans cette Sensei Maya de Silvestre Revueltas.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Éric Taladoire écrit « Les Américains pillent les récoltes, massacrent les bêtes pour se nourrir, brûlent les clôtures et les maisons pour cuire le produit de leurs rapines. Durant le premier mois d'occupation, on ne compte pas moins de 20 meurtres, le plus souvent gratuits, sans compter les viols, selon le propre témoignage du lieutenant Ulysse Grant, dont on entendra parler dans d'autres circonstances quelques temps plus tard. » Les Américains se dirigent durant le mois de septembre 46 vers la ville de Monterey, donc on est au sud du Texas pour posséder assiéger la ville. Ils doivent combattre rue par rue, maison par maison. L'armée américaine n'est pas préparée à faire ce genre de combat. Et le bilan, c'est de très nombreux morts civils et militaires. Les Mexicains se rendent au bout de 4 jours. Ils signent un armistice avec les troupes américaines. Et à présent, le gouvernement américain va avoir un ultime objectif pour que le Mexique accepte de céder tous ses territoires envahis. Il n'y a plus de Californie mexicaine, il n'y a plus de Texas mexicain, etc. Il faut envahir la capitale bien plus au sud, il faut envahir Mexico et une grande partie de ces hommes seront pendus par les troupes américaines. L'ensemble de ces actes pousse l'armée mexicaine, à capituler le 17 septembre 47 avant de mettre fin à l'aventure américaine au Mexique. Là, cette fois, les États-Unis ont obtenu tout ce qu'ils voulaient.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et le 2 février 48, eh bien, le Mexique va pouvoir signer le traité de Guadalupe Hidalgo. Le Mexique reconnaît l'annexion américaine de tous les territoires conquis. Il perd, autant dire, la moitié du territoire qui était le sien au moment de l'indépendance de 1821. Les États-Unis acquièrent environ un quart de leur territoire actuel. C'est en gros tout le sud et une grande partie du sud-ouest des États-Unis qui passe sous la souveraineté de Washington. La Californie, le Nevada, l'Utah, l'Arizona, le Colorado, le Nouveau-Mexique, bien sûr, et le Wyoming. Le Mexique reconnaît également l'appartenance du Texas aux États-Unis. Cette fois, c'est officiel. Et en échange, la République nord-américaine va donner 15 millions de dollars pour l'achat de ces territoires. Entre parenthèses, 10 ans avant le conflit, les États-Unis avaient proposé 30 millions de dollars. Mais vous voyez, en fait, la guerre a coûté cher aux Mexicains, si je puis dire, et à tous les points de vue. Rien ne pourrait désormais arrêter cette dynamique de la conquête de l'Ouest dans laquelle s'étaient engagés les jeunes États-Unis, nous dit Jean-Baptiste Galen qui a préparé cette émission d'aujourd'hui. Les combats, leur violence teintée d'un profond racisme laissent un goût amer aux Mexicains. Certains Américains ont reconnu eux-mêmes d'ailleurs les États-Unis, les erreurs des États-Unis en voyant dans la guerre de sécession une sorte de retour de bâton. C'est vrai que les États-Unis, eux, vont payer très cher par la guerre intérieure, la guerre civile, la guerre de sécession, ce qu'ils ont fait quelques années plus tôt contre le Mexique. On peut en tout cas voir ça de cette manière. C'est Ulysse Grant lui-même qui l'écrit dans ses mémoires. « La rébellion du Sud, dit-il, au début de la guerre de sécession, fut l'avatar de la guerre avec le Mexique. Nations et individus sont punis de leurs transgressions. Nous reçûmes notre châtiment sous la forme de la plus sanguinaire et coûteuse guerre des temps modernes. »
Vous écoutez Radio Classique.
Lui est beaucoup plus pacifique, je vous rassure, beaucoup moins armé ce matin. C'est Christian Morin, bonjour Christian.
Détrompez-vous. Alors pour les Mexicains qui nous écouteraient ce matin, escuchábamos la historia de la guerra México con Estados Unidos en Radio Clásica con Francisco Ferrando. Lo encontramos a las 2 de la tarde.
Muy bien.
On vous retrouve tout à l'heure. Muy bien. Muchas gracias de nada. Señor, adiós. Bon, écoutez, en tous les cas, cette guerre, c'est vrai, vous faisiez allusion à l'histoire de Zorro, où on voit très bien le problème qu'il y avait entre les États-Unis et qui n'était pas une mince affaire, qui n'est pas tout à fait terminée. Il y a quand même toujours.
Maintenant, c'est un problème migratoire.
Tout à fait, oui.
C'est un peu la nouvelle forme d'ailleurs que prennent les questions géostratégiques. Ce sont des questions migratoires maintenant.
On le voit malheureusement avec ce qui se passe à la frontière polonaise.
Par exemple,
actuellement. C'est un des exemples. Merci, mon cher Franck. Je vous souhaite un buen día. Hasta mañana.
Hasta mañana.